Ben décidément, il aura été question beaucoup, beaucoup dans cette émission de l'Église, d'une manière ou d'une autre, la sortie des évêques sur les vaccins, puis les cloches qui ont sonné. Et puis là, Christian Page qui va nous parler des ossements de Saint-Jacques.
Et sans oublier le Canadien et la Sainte-Flanelle.
Oh, bon. Oui, le temple, oui. Hein, le temple du hockey, la religion oui. nationale et tout. Bon, très, très bien. Oui. Alors, les ossements de Saint-Jacques, est-ce qu'on les aurait trouvés, mon cher, ou pas?
En fait, on croyait les avoir trouvés. Là, on a une espèce de douche écossaise. Il faut savoir qu'à travers toutes les églises en Europe ont des reliques. Et les reliques les plus prestigieuses sont celles, évidemment, de la Sainte Famille ou des proches de Jésus. Et à Rome, par exemple, puis c'est vrai que ce culte des reliques s'est développé à partir du 4e siècle, on a vu apparaître les grands pèlerinages vers les Terres Saintes, et les églises qui avaient des reliques importantes, évidemment, devenaient des endroits incontournables, et qui attirait le plus de pèlerins, et qui dit pèlerin disait également obol, d'où le fait que oui. les églises voulaient avoir des reliques prestigieuses. À Rome...
Qui est à les inventer des fois,
c'est ça. Qui est à les inventer, hein, oui. C'est pourquoi on disait souvent, on a autant de reliques de la Sainte-Croix, on pourrait pratiquement faire une forêt avec des morceaux de la relique de la Sainte-Croix.
Oui.
Mais cela étant dit, à Rome, il y a plusieurs églises qui se targuent d'avoir des objets très prestigieux, des reliques très prestigieuses, et c'est le cas de l'église Santi Apostoli, qui, elle, depuis le 5e siècle, 6e siècle, dit avoir des ossements, des fragments d'ossements, parce qu'on s'entend, là, ce sont des petits bouts d'os, qui proviendraient, oui. certains seraient dans les reliques qu'ils ont, ils en auraient de Jacques, qui, selon la tradition religieuse, pourrait être le frère de Jésus, et de Philippe. Philippe était le frère de Marie-Madeleine. Donc, Jacques et Philippe, tu comprends, ce sont deux personnages très importants, puisqu'ils font partie des 12 premiers disciples du Christ. Ah. Ils ont donc côtoyé Jésus.
Ah bon?
Donc, les reliques sont d'autant plus prestigieuses.
Ah ben oui.
Et c'est vrai que l'Église est généralement très réservée avant de permettre des analyses scientifiques, parce que c'est des couteaux à double tranchant.
C'est sûr.
Si la science prouve que la relique est authentique, bien sûr, on va attirer plus de fidèles. Mais si on démontre que la relique est fausse, évidemment, on risque de se mettre à dos certains fidèles. Et c'est un peu ici, on a joué la partie. L'Église Santi Apostoli a permis à un groupe de chercheurs de l'Université de Groningen, qui se trouve aux Pays-Bas, de procéder à des analyses sur les ossements qui sont conservés. Ce sont des ossements très anciens, comme je l'ai mentionné. Hein, on sait que l'Église les a depuis le 5e siècle à peu près. Donc, on a procédé à des analyses en profondeur et principalement, on a fait des analyses au carbone 14
oui.
sur les ossements que l'on dit être ceux de Saint-Jacques.
Et carbone 14, il faut le dire, Christian, c'est très exact. Hein? C'est la science, je dirais, la plus précise. Hein?
Ouais, c'est la science qui permet de déterminer l'âge des objets, disons, d'ordre biologique. Hein? On parle, bien sûr, de matière organique. Donc, dans le cas de Saint-Jacques, l'Église n'avait qu'un morceau de fémur que l'on disait être ceux de Saint-Jacques. Mmh. Et pour le cas de Philippe, on avait un pied momifié et un morceau de tibia. Les scientifiques se sont surtout concentrés sur la relique de Saint-Jacques, frère de Jésus. Et on arrive à la conclusion qu'une datation au carbone 14 montre que l'os en question daterait de 214, entre une période comprise entre 214 et 340 après Jésus-Christ.
Oh.
Donc, beaucoup trop tardif pour être des ossements de Jacques, frère de Jésus, ou l'un des apôtres premiers qui ont accompagné le Christ dans son ministère. Donc, évidemment, pour les fidèles, c'est un peu décevant parce qu'on misait beaucoup sur l'idée que ces reliques étaient authentiques. Les scientifiques croient qu'à une époque, autour du 4e siècle, à peu près, 3e, 4e siècle, à partir du moment où Rome a autorisé le christianisme, parce qu'avant, bien sûr, même si on avait des reliques, on ne le disait pas parce qu'on aurait été persécuté.
Oui.
Donc, à partir du moment où Rome autorise le culte chrétien, on commence à voir apparaître ce culte des reliques, et là, on croit que certains ossements provenant de tombes chrétiennes auraient transité vers Constantinople, ensuite vers Rome, d'où cette légende que les ossements gardés à l'église de Santi Apostoli seraient des ossements des premiers chrétiens,
bon.
Donc les premiers apôtres, mais malheureusement, l'analyse au carbone 14 vient jeter un doute sur ça.
Meilleure chance la prochaine fois. Il y a plein
Absolument.
D'autres ossements.
Ouais.
Hein, n'est-ce pas?
Ouais, bon. Il faut dire aussi, Bernard, que l'Église reste toujours très prudente par rapport aux reliques. Elle ne s'est jamais prononcée ouvertement. Mmh. Une fois, dans un élan un peu comme ça de passion, le pape Jean-Paul II avait déclaré que le suaire de Turin était l'authentique linceul du Christ.
Ouais.
Mais généralement, l'Église reste très prudente par rapport à l'authenticité des reliques.
Il l'avait évalué, le
suaire de Turin.
Le suaire, voilà. Puis c'est,
et là aussi, on avait fait une analyse au carbone 14.
Ça ne s'était pas avéré.
Qui le plaçait dans la deuxième moitié du Moyen Âge.
Très bien. Parlons un petit peu d'une machine à voyager dans le temps. Eh, Dieu, j'ai hâte qu'elle soit créée, celle-là.
Oui, ça, c'est une histoire un peu aberrante. Sur la toile, sur le web, il y a des gens qui deviennent tout à fait ce charme à toutes sortes d'histoires un peu fantaisistes. Et voilà qu'on a cette semaine une histoire qui fait couler beaucoup d'encre. C'est apparemment une fuite d'un document PowerPoint qui s'est retrouvé entre les mains d'un réseau d'informations qui s'appelle le CISPARC News, qui est un réseau un peu d'informations alternatives, qui fait un peu dans les nouvelles sensationnelles, les théories du complot. Et là, donc, ces gens-là disent avoir mis la main sur un document PowerPoint qui serait une fuite d'un document qui était échangé entre une société de développement technologique en Chine, qui s'appelle Huitai, et cet échange-là se faisait avec l'Institut des hautes énergies physiques de l'Académie des sciences de Chine.
Okay.
Et le document en question, la présentation PowerPoint, parle du développement d'une machine à explorer le temps. Hein, on peut lire en introduction, là, je te fais une courte citation. L'appareil peut manipuler le temps et l'espace, contrôler l'écoulement du temps, briser les barrières entre le temps et l'espace et pourrait être utilisé pour des voyages temporels. La première étape est de choisir un endroit en Chine qui pourrait être utilisé pour construire un centre expérimental.
Il ne demande pas le passeport vaccinal.
Non, il ne demande pas le passeport vaccinal, mais il demande une fondation de 5,4 milliards de dollars pour la mise en place d'un tel programme. Évidemment, lorsque cette histoire-là a commencé à circuler, on s'est dit, bon, est-ce que la Chine est en train de travailler au développement d'une machine spatio-temporelle, un tunnel du temps? Bien sûr, on a rejoint des journalistes, on rejoint l'Académie des sciences de Chine, qui ont nié catégoriquement être impliqués dans ce projet-là. Même la société Huitai Technology, qui est citée dans le document, elle est une société qui est tout à fait nouvelle. Hein? Elle a été incorporée le 30 décembre dernier. Donc, elle n'a que quelques mois d'existence.
Oh.
Et elle a nié, bien sûr, elle aussi est impliquée dans un projet comme celui-là.
Ça sent l'arnaque.
Ça sent l'arnaque. Pour l'Académie des sciences de Chine, on parle ici d'une mauvaise propagande. On ne sait trop pour quelle raison, mais ce projet-là n'existe pas. Ce n'est essentiellement qu'un fantasme né visiblement dans l'imagination de quelques amateurs de science-fiction. Donc, non, la Chine, apparemment, n'est pas en train de construire une machine à explorer le temps. Et ce qui était d'autant plus amusant dans ce document-là, on parlait notamment d'un scientifique qui s'appelle le docteur Gao Kun, qu'on nous présentait comme étant un prix Nobel de physique.
Oui.
Hors vérification dans la liste des prix Nobel de physique, le professeur Gao Kun n'existe pas.
Ah, mais attends, je comprends là, le truc,
oui.
C'est qu'il va voyager dans le temps.
Non,
c'est un futur prix Nobel.
C'est déjà, il vient déjà de... Moi, Bernard, je dois t'avouer que je ne crois pas qu'on trouvera jamais le moyen de voyager à travers le temps, parce que si tel est le cas, je pense qu'on aurait depuis longtemps été envahi par des gens du futur. Et toutes les fois que des gens du futur ont prétendu être des gens du futur, la seule preuve qu'ils avaient à nous proposer, c'était une photo floue d'un tyrannosaure.
Excellent. À jeudi prochain, mon cher.
Oui, sur ce, bonne fin de semaine, Bernard.
Salut. À demain, tout le monde.